RFI, 3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Galen.
Le sommet sur la sécurité européenne et sur l'Ukraine s'est terminé à Londres. Ursula von der Leyen veut un plan global sur la manière de réarmer l'Europe. On y revient dès le début de ce journal. Au Proche-Orient, Israël stoppe les aides humanitaires vers Gaza. L'ONU s'inquiète et appelle au rétablissement immédiat. Cette annonce a aussitôt alarmé les ONG présentes sur le terrain. Vous l'entendrez. En République démocratique du Congo, les musulmans de la ville de Goma, sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ont commencé à célébrer le mois de Ramadan. Et puis le Royaume-Uni autorise l'installation d'un pad de lancement de roquettes spatiales pour concurrencer les États-Unis dans la conquête des étoiles. Une augmentation massive des dépenses militaires dans l'UE, c'est ce que demande la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la sortie du sommet de Londres sur la guerre en Ukraine et la sécurité européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pu compter sur le soutien de ses alliés européens après sa brouille avec Donald Trump il y a 2 jours. À Londres, la correspondance de Sarah Menei.
C'est d'abord au 10 Downing Street que Volodymyr Zelensky aura trouvé du réconfort, accueilli chaleureusement par Keir Starmer. Il y aura ensuite eu les bras du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui a pris le président ukrainien dans ses bras à son arrivée à Lancaster House. Et puis il y a surtout eu les mots de ses homologues européens. L'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine, c'est finalement le message qu'auront voulu faire passer la douzaine de dirigeants réunis à Londres. Autour de Volodymyr Zelensky et de Keir Starmer, il y avait notamment Emmanuel Macron, mais aussi le Premier ministre norvégien, le Premier ministre polonais, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a justement déclaré « Nous voulons que les États-Unis sachent que nous sommes prêts à défendre la démocratie ». Volodymyr Zelensky était ensuite attendu au château de Sandringham, à l'est de l'Angleterre, pour y rencontrer le roi Charles III, qu'il avait déjà rencontré l'an dernier, et qui, depuis le début de son règne, ne cesse de soutenir le président ukrainien. Sarah Menei, Londres, RFI.
Et à l'issue de cette réunion, Emmanuel Macron ainsi que Keir Starmer ont proposé une trêve d'un mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Les combats au sol ne seraient donc pas concernés. Au Proche-Orient, Israël a annoncé aujourd'hui stopper les aides humanitaires vers Gaza. Une décision prise alors que les négociations sur la suite de la première phase de la trêve patinent. Cette annonce a aussitôt alarmé les ONG présentes sur le terrain. C'est le cas de Solidarité Internationale. Philippe Bonnet est le directeur des urgences en charge de la coordination de l'aide humanitaire à Gaza. Il estime que l'aide qui entrait grâce à la trêve n'était déjà pas suffisante au vu des besoins sur place. Aujourd'hui, il craint que cette décision ne complique encore la situation.
Nous avons été très déçus et surpris par cette décision. Solidarité avait justement un fret qui devait arriver d'Amman aujourd'hui et donc qui n'arrivera pas. Évidemment, là, on est devant le fait accompli. On est très inquiet, notamment pour l'approvisionnement en fuel. Il y a des consommations importantes. Hein. Il y a quasiment un flux tendu d'approvisionnement en carburant. Donc, s'il s'arrête, il y a le risque que tout ce qui a besoin d'électricité, parce qu'il y a plus d'électricité dans la bande de Gaza autrement que celui qui est apporté par les générateurs ou les panneaux solaires. Mais le risque, c'est par manque de fuel. Les stations de traitement d'eau, en ce qui nous concerne, vont s'arrêter, vont plus pouvoir fonctionner. Les hôpitaux n'auront plus d'électricité. Enfin, voilà, il va falloir qu'il y ait des pressions qui se fassent de la communauté internationale sur les Israéliens pour permettre la réouverture de ces points de passage, hein, qui est une obligation dans le cadre du droit humanitaire.
Philippe Bonnet au micro d'Amira Souilem. En Iran, une motion de censure fatale pour le ministre de l'économie. Abdel Nasser Emati a été révoqué par le Parlement en poste depuis août. Il est tenu responsable d'une forte dépréciation de la monnaie nationale face au dollar et d'une inflation galopante. Un phénomène accéléré depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. RFI, 4h04 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les musulmans de la ville de Goma, sous contrôle des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont commencé à célébrer le mois de Ramadan. Et ce, dans un contexte particulier, après des combats entre les combattants du M23 et les FARDC. On écoute Cheikh Idrissa Faranga, représentant de la communauté islamique à Goma.
Comme la situation sécuritaire n'est pas totalement bonne, nous avons été contactés les autorités en place et on a échangé et ils nous ont rassuré la sécurité. Et depuis que nous avons commencé, on n'a pas encore enregistré un musulman qui a été victime d'un cas d'insécurité. Nous demandons aux musulmans de multiplier les prières des Kounout et prier surtout en faveur de la sécurité de notre pays en général et l'Est de la République en particulier. C'est le plus grand message parce que le mois de Ramadan, c'est un mois très particulier où Dieu pour nous exauce toutes nos prières et c'est pour nous vraiment l'occasion de prier pour particulièrement la sécurité de notre pays. Les musulmans, chaque fois au début du mois, ils trouvaient facilement l'aftar et ils s'entraidaient entre eux. Mais maintenant, ça devient difficile parce qu'économiquement, tout le monde est au rabais. Vous savez, avec le pillage qui s'est passé au niveau de Goma, les commerçants musulmans ont été mis à genoux. Le manger est devenu difficile. La rupture d'hygiène du mois de Ramadan par jour ne s'est fait plus facilement. Il n'y a pas moyen qu'on puisse prendre en charge les déminus, tout ça. Ce sont des problèmes que nous enregistrons.
En France, le 61e Salon de l'agriculture a fermé ce dimanche soir à Paris. Une édition bien plus calme que l'année dernière. En 2024, le monde agricole demandait plus de moyens à Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, où en sont les agriculteurs? Sont-ils toujours en colère? Gladys Estève de l'Union des producteurs de lait Camembert, Pont-l'Évêque et Livaro dresse un bilan de cette édition 2025 et se fait porte-parole des agriculteurs.
Ils essayent d'avoir des réponses du gouvernement. C'est plutôt, je pense, un ras-le-bol. Et puis, ils se sentent peut-être un peu lassés de voir qu'ils n'ont pas forcément trop de réponses. Mais bon, vu le climat politique et tous ces changements dans l'ambiance politique, je pense qu'il faut... Bah, fallait s'attendre à ça, quoi. L'année dernière, le premier jour du salon, le samedi, on n'a pu rien vendre parce que justement, on était dans le hall avec les manifestations. Donc ça a été assez compliqué pour un premier jour de salon. Mais là, cette année, tout va bien. Nous, c'est assez particulier parce que l'année dernière, on était vaches égéries. Donc on était vraiment mis à l'honneur sur le stand de la vache. Donc il y avait quand même, je pense, quand même plus de fréquentations. Mais on est plutôt très satisfaits. Parce qu'on a quand même réussi à vendre une grosse partie de nos fromages.
Gladys Estève au micro de Mathias Troud. Nous quittons la terre ferme direction les étoiles. Un robot américain s'est posé sans encombre sur la face nord-est de la Lune. Il s'agit de Blue Ghost Mission One, un robot lancé par une entreprise privée pour le compte de la NASA. Grâce à lui, les scientifiques espèrent étudier la poussière lunaire. Et justement, le Royaume-Uni a autorisé l'installation d'un pad de lancement de roquettes spatiales. 30 tirs sont prévus chaque année, le premier est attendu en juillet. Objectif, lancer des satellites depuis la zone Europe et concurrencer Kourou en Guyane. Mais comme avec les fusées américaines lancées par SpaceX ou Blue Origin aux États-Unis, l'avancée spatiale a un coût écologique sur Terre. Reportage de Thomas Harms aux îles Shetland.
Sur l'île d'Unst, les 632 habitants espèrent des retombées économiques du spatioport. L'île a perdu des emplois avec la fermeture d'une base de l'armée de l'air britannique. Trevor Spence vient de donner à manger à ses poneys Shetland. Le vent souffle à 40 km/h.
Je ne sais pas. Au début, je pensais que c'était une super idée. Mais en fait, très peu de gens locaux travaillent là-bas.
Les pêcheurs, eux aussi, sont dubitatifs. Daniel Lawson défend les équipages des 115 bateaux de pêche locaux au sein de la Shetland Fishermen's Association et une zone d'exclusion de 58 km² autour du pas de tir est prévue les jours de lancement. Mais pas uniquement.
La zone d'exclusion va rester en place, même s'il y a un retard à cause de la météo, et peut empêcher la pêche pendant plusieurs jours avant que le lancement ait lieu.
Outre le souci économique, il y a la question écologique. Car contrairement aux fusées de SpaceX, les sections qui contiennent le carburant, ici, ne vont pas être réutilisées. Le gouvernement à Londres autorise même ces bouts de fusée à tomber en mer sans que personne n'ait à les récupérer.
Ce sont des objets métalliques plutôt gros. Imaginez si vous êtes sur un bateau où cet objet tombe, sans compter que ça va détruire les filets qui touchent le sol marin.
De leur côté, les autorités britanniques affirment que ces débris vont former une sorte de barrière de corail artificielle et servir d'habitat pour la vie marine. Thomas Harms, aux îles Shetland. RFI.
Et puis la 97e cérémonie des Césars vient de débuter à Hollywood. Quelques prix ont déjà été décernés. Anora obtient l'Oscar du meilleur scénario original. Zoé Saldana, meilleur second rôle féminin dans le film Emilia Pérez. L'Oscar du meilleur second rôle masculin attribué à Kieran Culkin dans le film A Real Pain. Et puis la production lettonne Flo remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. RFI, bientôt 3h10 à Paris, 2h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.